Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
On se retrouve avec nos trois experts du jour. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit et de conseil BDO France. Robin Rivaton, le président de Stonal et le fondateur de Real Estate. Et Danny Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne, Paris Nord. Alors on est sur la discussion autour des super profits. Faut-il les taxer ? Il y a plein de pays qui ont déjà franchi le pas, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, la Bulgarie. Alors, on peut admettre l'idée, Anne-Sophie Alsif, mais effectivement, comme disait Robin Rivaton, c'est toujours l'idée. Quand on n'a pas d'idée, la seule idée qu'on a, c'est de taxer les riches, en fait. Et à chaque fois, on s'aperçoit que c'est jamais à la hauteur, évidemment, du problème. Donc, à quoi ça servirait de taxer les super profits ?
Peut-être plus nuancé.
Moi, j'ai le droit. Vous en avez l'obligation. Moi, non.
Mais je pense qu'en effet, quand le gouvernement français s'était engagé à pas augmenter les impôts, c'est vrai que même si la situation est exceptionnelle, je pense que c'est un peu leur dernière cartouche en fonction de ce qui va se passer à l'hiver, si ça dérape ou pas. Je le vois plutôt comme ça. Je pense que l'objectif, c'est plutôt en effet d'avoir une réduction du carburant à la pompe, même si c'est pas forcément efficient économiquement parce que tout le monde en profite, quel que soit votre niveau de revenu. Donc là, en effet, en termes d'efficacité, c'est porté à caution. Mais c'est plutôt ça. Pourquoi ? C'est aussi au niveau des anticipations des agents. On le voit depuis le début de l'année que la consommation est en ralentissement. Or, on attend plus de 2% de croissance cette année. On était à plus de 4% avant la crise ukrainienne et on se basait sur ce rattrapage cette année pour se désendetter et pour essayer d'avoir justement un assainissement des finances publiques. Donc ça, c'est raté. Donc l'idée, c'est vraiment de préserver le plus possible ce taux de croissance et donc la consommation. Et donc l'idée, comme il n'y a plus de confiance ou il y a beaucoup d'anxiété sur l'avenir, c'est de donner des signaux en disant oui, continuez peut-être à consommer. On va vous aider sur votre pouvoir d'achat, sur l'argent à la pompe, parce qu'il y a un côté tout de suite, vous avez la réduction. Vous faites une taxe, ça va en effet à l'État qui après le redonne à telle ou telle politique publique et ça peut être autre chose. Donc là, il y a l'effet immédiat, l'effet, je pense, signal de dire aux consommateurs eh bien, continuez, on vous aide dans votre consommation et au quotidien pour essayer d'avoir un minimum d'impact sur la consommation des ménages qui ralentit fortement et on voit qu'il pourrait être très fortement ralenti.
Qu'est-ce qu'on va leur dire au mois de janvier aux ménages
Alors c'est ça, c'est pour ça que je pense que là, dans une graduation,
là, finalement, on fait ce genre de choses. Le jeu de cette loi pouvoir d'achat, il est pas. Enfin, je veux dire, c'est quoi ? C'est les trois mois qui viennent. C'est pas grand chose par rapport au véritable enjeu de janvier, quand les dispositifs actuels sont censés arriver à terme et qu'on ne sait pas du tout où seront les prix de l'énergie.
Complètement. Mais c'est pour ça que je pense que l'idée, c'est vraiment d'être progressif plutôt que de dégainer cette arme qui pourrait rapporter, même si en effet, ça ne va pas couvrir toutes les dépenses qui ont été engagées à court terme. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de l'utiliser le plus tard possible en disant regardez, on a tout essayé avant et là, on n'a pas le choix. Je pense que même pour la rhétorique politique, ce serait ça plutôt qui serait utilisé.
Parce que c'est pas ça le seul but d'ailleurs, c'est genre allez faites un effort et puis
peut être une option, mais je pense qu'il y a un impact quand même important sur la consommation.
Alors déjà je suis assez d'accord avec ce qu'a dit madame, c'est effectivement on est dans une situation où il faut essayer d'ancrer les anticipations, c'est clair. Après, moi, une fois de plus, je pense que la bonne idée à moyen terme et à long terme, c'est de rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits, donc l'augmentation des salaires.
C'est vrai. Il n'a jamais été aussi favorable depuis 40 ans.
Pardon ?
Il n'a jamais été aussi favorable depuis 40 ans.
Oh bah écoutez, les années 80...
On est au même niveau qu'au milieu des années 80.
Depuis le début des années 80, la part des salaires dans la valeur ajoutée a perdu en gros 7 points de PIB. En fait, il y a 7% qui sont passés de la poche des salariés vers la poche des actionnaires. Donc là, si les salariés peuvent en reprendre un peu, c'est une question de distribution primaire du revenu. À mon avis, le vrai enjeu, il est là. Ceci étant dit, je partage pleinement ce que vous avez dit sur la nécessité d'ancrer les anticipations, la nécessité d'envoyer un signal. Donc, c'est rare que sur ce plateau, j'ai des gens qui soient d'accord avec moi.
Et le fait qu'on soit le seul pays dans lequel les salaires progressent plus vite que la productivité, par exemple, ça vous
ça par contre c'est inquiétant, mais il faut quand même dire que les gains de productivité, ça fait longtemps qu'ils augmentent plus. Et d'ailleurs, c'est un vrai paradoxe. C'est un paradoxe qui est bien connu des économistes. Hein, le fameux paradoxe de Solow. On voit les ordinateurs partout, sauf dans les gains de productivité. 0,4%, c'est ridicule. Non, c'est vrai que des salaires qui augmentent plus vite que les gains de productivité, c'est inflationniste par nature. La vraie question,
c'est on est le seul pays où c'est comme ça.
Le seul pays, il y a les cunitaires salariaux, donc c'est-à-dire les
actuellement.
On est le seul pays où
actuellement.
C'est comme ça depuis 10 ans.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En France, les salaires progressaient au même rythme que la productivité jusqu'au deuxième mandat de Jacques Chirac, et puis ensuite, ça n'a plus été le cas depuis Nicolas Sarkozy. Donc si ça revient à ça...
Donc on est bien d'accord, ça fait bien une quinzaine d'années que c'est comme ça.
C'est une bonne nouvelle. Si ça revient comme ça, ce sera un retournement intéressant. Ceci étant dit, l'enjeu, voilà, le véritable enjeu, c'est de rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée, le partage primaire entre les salaires et profits. Juste un dernier élément. Il faut quand même... C'est vrai qu'on dépense beaucoup... La dépense publique française, c'est beaucoup de l'aide aux ménages. Quoi. L'essentiel des dépenses publiques, c'est ça, c'est de la redistribution. Mais... Moi, j'ai un chiffre en tête qui est l'indice de Gini, qu'aiment bien certains économistes pour montrer les inégalités. Quand on prend l'indice de Gini brut, celui avant redistribution, on est à des niveaux d'égalité similaires à celui du Japon et celui des États-Unis. C'est la redistribution qui permet de faire baisser les inégalités dans notre pays et de faire baisser fortement le Gini. C'est très frappant. Si vous prenez les Gini avant redistribution et les Gini après redistribution, on serait au même niveau d'inégalité que les États-Unis, que les Japonais, si on n'avait pas ce système-là. Alors, on peut le mettre en cause, on peut en discuter. Moi, je pense que c'est quand même souhaitable. Dernier élément, toutes ces taxes, quand même. On dit elles pèsent pareil sur les riches et les pauvres. Je suis d'accord. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les pauvres, dans leur budget, les impôts, la TIPP, la TVA, l'ensemble des impôts, ça pèse très lourd par rapport à leurs revenus. Les ménages pauvres, les ménages au SMIC, payent beaucoup d'impôts. Donc, c'est pas choquant, d'après moi, de faire baisser un peu la TIPP, la TVA, ou de limiter les hausses sur le gaz, etc. Ça pèse très lourd dans leur budget. C'est des dépenses contraintes.
Ouais, c'est aussi pour ça que la France est le pays dans lequel qui s'est le plus appauvri par tête, finalement, depuis 20 ans. Donc, vous pouvez faire le choix de la pauvreté pour tout le monde. Mais c'est un peu tout le monde en deux chevaux, quoi, vous voyez.
Non, c'est bien, mais c'est absolument pas ma vision des choses.
Mais c'est une vision très. Est-ce que c'est pas une vision très
classe moyenne?
Est-ce que c'est pas une vision court terme?
Tout le monde vers les classes moyennes.
Oui, mais là aussi, la classe moyenne, il y a beaucoup de définitions de classe moyenne.
Oui, bien sûr.
C'est ça le problème.
Oui, non, mais c'est une vision égalitaire. C'est sûr, dans une société extrêmement où tout le monde est pauvre, le Gini, il est plus bas.
Et dans une société où tout le monde est moyen et gagne dignement sa vie, le Gini est aussi faible.
Oui, sauf qu'il y a quelques phénomènes qui sont passés par là, comme la mobilité du capital, comme le fait que les gens peuvent se déplacer, comme le fait que la dette, si elle devient trop importante, sera payée par ceux qui ne peuvent pas se déplacer, justement, et qui sont les personnes les plus modestes et les classes moyenne. Donc on peut revenir sur des concepts assez larges, mais le sujet aujourd'hui est tel qu'il est posé, c'est que la France se singularise parmi les pays européens qui, quand même, on ne parle pas du Japon et des États-Unis qui lui ressemblent, en tout cas qui sont des pays qui ont adopté pour la plupart la social-démocratie. Parmi ces pays-là, la France se distingue en ayant aujourd'hui le plus fort déficit public, en ayant aujourd'hui le plus fort taux de dépenses d'accompagnement de l'inflation et en ayant la plus faible productivité des salaires, comme ça a été rappelé.
Et le plus gros déficit commercial.
Et donc aujourd'hui, quand on met ces éléments ensemble, il est normal que du point de vue de l'extérieur et notamment des investisseurs, et on va de plus en plus ressentir le souffle froid de la spéculation sur les marchés, puisque la Banque Centrale a quand même fermé ou resserré une partie de ses programmes d'achat de créances souveraines. Et donc on va de plus en plus sentir le souffle des investisseurs qui vont attaquer la dette française. Aujourd'hui, le gros sujet, c'est l'Italie. C'est un point qui va arriver très vite à l'ordre du jour. Et une fois que l'Italie, et on verra comment l'Italie sera digérée ou sera défendue par la BCE, l'autre sujet qui va passer, c'est la France. Et c'est un point extrêmement important.
Je pense que là, je pense qu'il faut un peu de nuance parce que c'est un peu les deux extrêmes, à mon sens. Là, vous parlez des investissements internationaux. La France, c'est la première destination au niveau des investissements. Ah si, regardez les classements. Donc il n'y a pas de problème d'investissement, au contraire. Tout le monde veut investir en France, vous avez vu encore dans le Choose France et tout. Donc ça, c'est pas le. Et ça, c'est un totem qu'on entend depuis 20 ans, notamment par rapport au Royaume-Uni, etc. Comme le niveau de déficit commercial, alors qu'on sait que c'est un déficit qui est essentiellement dû à l'énergie. Bien sûr qu'on a un problème de désindustrialisation, mais c'est toujours le problème de l'énergie qui nous.
Non, vous ne pouvez pas balayer le problème du déficit commercial en disant que c'est l'énergie.
La majorité de l'augmentation en 2021, c'est à cause de l'énergie. L'augmentation, c'est dû à l'énergie. Après, vous avez le côté des industrialisations que l'on a depuis 20 ans, mais le gap, la hausse qu'on a eu importante en 2020, en 2021, c'est à cause du prix de l'énergie.
Attendez, Anne-Sophie, les Allemands, ils l'ont eu aussi, les Espagnols, les Italiens, ils ont eu aussi la hausse de l'énergie, et on a 4 fois plus de déficit commercial. Donc c'est bien.
Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même modèle productif. Non, ça n'a rien à voir. Les Allemands, c'est une économie industrielle exportatrice. La France, c'est une économie de services et de consommation intérieure. C'est aussi pour ça qu'on a moins d'inflation importée aujourd'hui parce qu'on est dans les services que les Allemands qui sont dans l'industrie.
C'est bien parce qu'on n'a plus d'industrie et qu'on compense par des revenus de nos investissements à l'étranger, mais ça, c'est des revenus différents.
Donc après, on ne peut pas comparer. Mais ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est sûr qu'on ne soit pas une puissance industrielle comme l'Allemagne. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par rapport à ce que vous disiez, attention, après l'Italie, ça va être la France, etc. Là, je pense qu'il faut quand même être beaucoup plus nuancé. Même pendant la crise de 2010, on l'entendait quand vous regardez en effet les taux réels et surtout que vous regardez les collatéraux et aussi la forte capacité que la France a levé l'impôt. Vous en parlez très bien. C'est pas la dette, à mon sens, au niveau international qui peut être le plus risqué, le plus attaqué par rapport à l'Italie, justement, qui n'a pas de croissance potentielle et qui a des gros problèmes aussi de main-d'œuvre et de désindustrialisation, même s'ils sont supérieurs à nous en industrie. Donc, ça, il faut quand même, je pense, bien sûr qu'il faut se désendetter, mais en tout cas, la France ne peut pas être comparée à l'Italie pour l'instant sur ces sous-jacents. Ça, je pense que c'est important de le dire pour pas là aussi créer plus d'anxiété qu'il existe déjà. Et par rapport, on va dire, à la globalité et aux différents indicateurs que vous avez listés, en effet, la problématique, je pense, c'est vraiment les 9 millions de personnes qui décrochent. Donc plutôt de il faut plus du tout faire de dette ou en effet, il faut augmenter les salaires pour tout le monde. Vous avez 9 millions de personnes qui ont déjà énormément décroché pendant le Covid, qui sont passées en dessous de tous les radars et qui repeignent la double peine encore là. Et c'est ça le problème, le coût, hein, si on parle d'une manière purement économique de ces gens qui décrochent, c'est ça le vrai sujet. Donc là, c'est tout à fait normal d'avoir des financements, même si c'est beaucoup, parce que politiquement, c'est excessivement compliqué et économiquement à moyen long terme, si vous laissez ces personnes sur le côté, ce le sera aussi d'autant plus, notamment en termes de crise sociale.
Alors justement, on parlait tout à l'heure d'une forme de nationalisation finalement du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas le moment d'y aller sur le revenu universel ?
Je peux commencer.
Allez, Dani, commencez.
Moi, j'ai une position très tranchée. Vous savez que je suis membre des économistes atterrés et j'ai jamais caché. La plupart des économistes atterrés pensent comme moi là-dessus. Il y a un ouvrage que je conseille que je n'ai pas écrit qui s'appelle Faut-il un revenu universel ? Et ma réponse, c'est non. Pour moi, le revenu universel, ça a toujours été une arme de destruction massive de l'État social. Je me souviens d'avoir eu des échanges très intéressants avec un ancien ministre de M. Sarkozy à ce propos. Dommage, c'était hors antenne. Donc le revenu universel pour les libéraux, c'est voilà, on arrête l'État social, boum, on verse la même somme à tout le monde. On verse la même somme à tout le monde, que ce soit M. Pinault, M. Arnault ou ces 9 millions de personnes dont vous venez de parler, et on n'en discute plus.
Voilà, moi, vous raccourcissez un peu parce qu'il y a plusieurs visions du revenu universel. C'était dans le programme de Benoît Hamon.
Prenons la version de M. Hamon. Elle coûtait quand même à peu près un quart du PIB. Donc 500 milliards d'euros.
Vous voulez avare des deniers publics.
Non, mais je ne suis pas avare des deniers publics.
Là, c'est
mais
ça.
J'ai toujours défendu la dépense publique, mais je ne suis pas pour qu'on fasse n'importe quoi, n'importe comment. Et d'ailleurs, c'est un de mes problèmes. Aujourd'hui, je suis très partagé sur toutes les mesures parce que j'ai l'impression qu'on est en train de mettre du sparadrap partout, alors que ce qu'il faudrait vraiment, c'est une augmentation des salaires. Donc, je ne suis pas avare des deniers publics. Je pense que la dépense publique, si elle est correctement ciblée dans des secteurs à fort potentiel, est un levier important. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait aussi plus réfléchir à la transition énergétique, même si c'est fait en partie, mais mettre beaucoup plus de deniers là-dessus, parce que c'est un secteur, voilà, on fait marcher le bâtiment.
C'est bien d'augmenter les salaires, mais vous ne résolvez pas le problème des gens qui ne travaillent pas, par exemple, les 9 millions de gens...
Qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à vivre de leur travail.
Justement, c'est pour ça que, moi, plutôt que cette mesure qui est très chère, et qui me paraît, qui tient pas du tout compte des revenus des personnes, et qui va venir remplacer d'autres choses, parce que 500 milliards, c'est quand même pas rien. Moi, j'ai toujours été pour l'emploi garanti, c'est-à-dire la Constitution prévoit le droit à l'emploi. C'est une proposition qui est sur la table, qui a été appliquée partiellement depuis les années 30, notamment dans ce grand pays communiste qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, où elle a concerné 5 millions de personnes sous Roosevelt. Moi, je pense que le droit à l'emploi doit être appliqué à travers l'emploi garanti. C'est-à-dire que chaque personne doit avoir droit à un emploi qui lui est proposé par les collectivités locales, décidé par ces personnes et décidé socialement avec les habitants, avec les patrons pour pas faire concurrence au privé et avec les syndicats pour pas faire concurrence au public. Ça existe en partie, ça s'appelle territoire zéro chômeur de longue durée, mais c'est limité à certaines zones.
Juste pour réagir par rapport à ça, là quand vous parliez en effet des 9 millions de personnes, vous avez une personne qui sont sans emploi, mais la majorité ce sont des gens qui travaillent, qui cumulent plusieurs emplois, qui sont dans contrats précaires et qui justement n'ont pas assez de revenus pour pouvoir vivre dignement. Donc c'est pas une question d'avoir un emploi, c'est souvent des gens qui travaillent énormément.
Juste avant de passer la parole à Robin, le rapport d'évaluation de France Stratégie sorti hier sur les 35 mesures du plan pauvreté, anti-pauvreté, montre que finalement il y a une mesure qui quand même s'est distinguée par son efficacité, c'est l'augmentation de la prime d'activité. Robin, un revenu universel.
Non, mais moi je suis assez aligné avec ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui on a une partie de la population française qui décroche, une partie qui est dans l'emploi, une partie qui est quand même hors de l'emploi, notamment chez les plus jeunes, les fameux NEETs, donc pas en formation, pas dans le système éducatif, qui ne travaillent pas, a explosé quand même depuis la crise Covid, et on voit bien qu'il y a eu des décrochages massifs et qu'aujourd'hui il y a aussi à recréer des sas vers le monde du travail pour une partie de cette population qui décroche de plus en plus tôt et qui donc devient de plus en plus irrattrapable pour le marché du travail. Et après, j'entends totalement le sujet des travailleurs pauvres qui sont des travailleurs qui, aujourd'hui, sont insérés sur le marché du travail dans des positions extrêmement précaires et qui n'arrivent pas parce qu'ils jonglent entre plusieurs emplois, parce que son mère célibataire doit faire des arbitrages entre la garde des enfants, le travail et sont dans des situations extrêmement difficiles. Mais on a ces deux populations et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas assez travaillé sur le retour à l'emploi. On voit que les mesures qui marchent, c'est quand on réussit à réinsérer. Vous parlez des initiatives extrêmement locales, comme territoire zéro chômeur ou de la prime d'activité sur un schéma plus général. Et je pense qu'on doit vraiment mettre tout le poids du corps là-dessus, sur effectivement aider, mais aider avec une vocation d'insertion, quoi. C'est quand même le sujet, il est là. C'est qu'on s'insère dans la société par le travail, c'est pas un gros mot de le dire. Et la vision du revenu universel, qui est parfois une vision un peu chacun peut exprimer ses dons et ses talents et faire ce qu'il veut, elle convient très bien pour les gens qui ont la chance d'avoir eu l'éducation, l'accompagnement familial pour exprimer leurs talents. Pour beaucoup de gens parmi la population, malheureusement, l'insertion, elle se passe par le travail. Et vouloir négliger cet aspect-là des choses dans le revenu universel, c'est moi ce qui me dérange le plus. Il y a un côté, c'est l'oisiveté aristocratique, c'est-à-dire que chacun va pouvoir cultiver sa passion pour le dessin ou pour telle autre chose. C'est pas ça la réalité aujourd'hui de ce qui se passe dans beaucoup de territoires en France. Donc on a besoin de multiplier les initiatives et les efforts pour faire en sorte que le taux d'emploi continue d'augmenter sur ces populations. Et aujourd'hui, on a vraiment ce décrochage. On l'a dit aussi, on a parlé de la société française au global à chaque fois depuis le début de l'émission. On n'a pas parlé de sa polarisation. Il y a des marchés extrêmement dynamiques où les gens vont extrêmement bien, où les salaires sont en train de prendre 4% par an, parce que aujourd'hui on trouve plus une personne dans toutes les fonctions de service à forte valeur ajoutée dans ce pays. Donc les salaires sont en train de pousser très fort. Et de l'autre côté, il y a une partie de la population qui ne voit pas le début du marché du travail. Et c'est pas les dispositifs de Pôle emploi ou des missions locales qui, malheureusement, aujourd'hui ne sont pas suffisants, ou alors faut les retravailler, puissent répondre à ce besoin-là.
Vous parliez de précarité. Attendez, juste, je vous cite un chiffre. Juste, je vous laisse finir, Daniela. Chiffre qui m'a étonné quand même, sorti hier. 44% des indépendants et des patrons de TPE travaillent plus de 50 heures par semaine pour moins que le SMIC.
Oui, oui. Mmh. Ah non, non, mais vous savez pourquoi. Donc, déjà, avant je vais dire quand même, petit plaisir, je suis complètement d'accord avec vous. On oublie souvent les gens qui proposent le revenu universel, oublient souvent que le travail, certes, l'origine du mot, c'est la torture, certes, c'est une contrainte, mais c'est aussi une source d'épanouissement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les retours des évaluations de territoires zéro chômeur ou dans les dispositifs d'emploi garanti dans d'autres pays comme à Marienthal en Autriche ou en Inde. Déjà, ça contribue à une meilleure égalité de genre dans les pays où l'égalité de genre est problématique. La France en fait encore partie. Mais surtout, voilà, ça redonne du sens aux personnes qui disent... Voilà, je peux de nouveau me regarder dans la glace, ma fille est fière de moi, je fais quelque chose d'utile qui a été défini socialement. Donc, voilà, vous avez tout à fait raison de souligner que ces histoires de revenus universels, c'est pour les gens qui ont bénéficié d'une éducation et qui... voilà, c'est pas pour tout.
Bon, j'ai bien compris qu'on était en train de basculer du revenu universel à l'emploi universel.
Ah bah oui, mais ça, moi voilà. Je le signe tout de suite. Ça fait des années que je le soutiens. J'ai fait une tribune là-dessus avec Madame Laluc, Aurore Laluc, la députée, et puis Madame Tcherneva, la conseillère de Monsieur Bernie Sanders. Voilà. Pour en venir au TPE, ben ça c'est le résultat de politiques depuis plusieurs années qui ont consisté à déguiser des salariés en patrons. Des gens qui normalement étaient salariés, on leur a dit vous allez être l'entrepreneur de votre propre vie, vous allez être auto-entrepreneur, et donc ils se lancent, ils disent c'est génial, j'ai pas de contraintes, je vais y arriver, etc. Mais finalement ils se retrouvent avec des salaires qui sont vraiment ridicules et avec des revenus qui leur permettent pas de vivre. Et alors c'est parfois des gens qui travaillent très très dur et qui s'en sortent pas. Donc, à mon avis, il y a un certain nombre de secteurs où il faudrait réfléchir à ceux qui ont un salarié et à ceux qui ont un patron. Parce qu'ils pensent être patrons, mais en fait, ils sont patrons de rien du tout, puisqu'ils décident de rien. Ils sont mal payés.
Mais juste pour conclure, Anne-Sophie Alsif, est-ce que la solution, c'est pas d'aller chercher justement secteur par secteur plutôt que d'essayer les grandes mesures générales dont on voit qu'il y a certains secteurs, ça mettrait en difficulté. Je pense à la proposition de hausse du SMIC, par exemple.
Complètement secteur par secteur et vraiment la question des qualifications et des compétences qu'au centre. Hein, c'est vrai qu'on dit ça toujours comme un lieu commun depuis 10-20 ans, mais c'est quand même ce qui est au cœur du sujet hein, par rapport à ce que vous disiez. Le mot juste, c'est vraiment la polarisation. Pour parler de toutes les mesures qu'on a évoquées sur ce plateau, il y a vraiment un risque de polarisation et d'explosion des inégalités. Et même si dans les indicateurs, grâce justement à la redistribution, on a pu avoir cette limitation en France, c'est quelque chose qui est très intégré, même chez les ménages, chez les entreprises, en disant demain, ça va être plus difficile parce qu'il y aura cette polarisation qui sera beaucoup, beaucoup plus importante. On le voit en effet dans le vote, mais on le voit aussi économiquement. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a aussi un climat assez anxiogène, malgré tous ces milliards que l'on donne, parce que c'est vrai, on a ce débat-là, mais on se dit, on n'a jamais donné autant, on parle de 10, 20 milliards, et vous voyez que vous avez toujours une grande inquiétude sur la confiance qui existe.
Justement, juste 5 secondes chacun, quelle rentrée vous attendez ? Est-ce que vous pensez que le climat social est explosif, compte tenu justement de ces différences de situation ou
pas ? Je pense pas, quoi, parce que c'est ça un peu la dichotomie de cette situation, c'est qu'on a l'inflation, la guerre en Ukraine, mais de l'autre côté, quand vous regardez les indicateurs économiques, ils sont pas forcément tous mauvais. Vous voyez au niveau du taux de chômage, vous dites les jeunes, mais c'est là aussi où l'emploi a le plus progressé. Hein, c'est plutôt chez les plus de 55 ans qu'on a aujourd'hui les vrais problèmes. Vous voyez aussi au niveau des carnets de commandes qui sont plutôt complets puisque la demande est là. Donc on a vraiment justement cette dichotomie entre une bonne situation économique et les anticipations.
Ça va péter ou ça va pas péter ?
Non, je pense pas que ça va péter.
Bon, voilà. Dany, en un mot, ça va péter, ça va pas péter ?
Je n'ai pas de boule de cristal. On est vraiment dans ce que Keynes appelait l'incertitude radicale.
Oui.
Voilà, c'est sur cette incertitude radicale que se termine cette nouvelle édition des Experts. Merci Anne-Sophie Alsif, merci Robin Rivaton, merci Dany Lang. On se retrouve demain.